Savais-tu qu'il y a 88% des résolutions qui sont prises au Nouvel An qui sont abandonnées après seulement 2 semaines? Pourquoi? Parce que souvent, on se lance des objectifs qui sont pas réalistes puis qui cadrent pas avec notre style de vie actuel. Fait que s'il y a une seule résolution là, que je te suggère de prendre en 2025, c'est d'arrêter cette mentalité-là de tout ou rien, puis plutôt de viser l'équilibre. Donc, fini les excès, allô la constance. C'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'application Constance. Constance, c'est une application que j'ai eu la chance de tester. Puis, dans les dernières semaines, là, et ça regroupe le bien-être sous toutes ses formes. Que ce soit ta santé physique, ton alimentation, ta santé mentale, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est une communauté qui est engagée, qui prône l'équilibre, le bien-être, puis qui se motive au quotidien. Après 2 mois d'essai, là, je trouve que c'est une application qui est vraiment conviviale. Il y a beaucoup d'options pour chacun de tes besoins. Quand je sortais prendre une marche, je pouvais écouter un podcast. Sinon, si j'avais envie de me détendre, je pouvais faire une méditation. J'ai aussi écouté plusieurs des conseils financiers. J'ai fait des entraînements. C'est vraiment complet. J'ai vu bien fait, puis ce que j'aime surtout, c'est le fait que peu importe où tu es, tu peux utiliser l'application. Tu n'as pas besoin d'un abonnement à un gym, par exemple, ou sur plusieurs autres plateformes. Tant que tu as ton téléphone avec toi, tu peux utiliser l'application Constance. Donc, si tu as envie d'essayer l'application, je t'offre un code promo exclusif, Inspire-toi 15, pour 15% de rabais sur ton abonnement. Le lien va être dans la description. Merci, Constance. La saison 4, c'est une saison qui est chargée en nouveautés. Donc, en collaboration avec la compagnie La Clos Loco, on a conçu une collection Inspire-toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 premiers items de la collection. C'est 3 verres qui ont été conçus par Chloé. Puis, chacun de mes invités là, vont en recevoir un, puis vous allez les voir prendre leur breuvage tout au long de la saison dans les verres. Donc, premièrement, vous avez celui-là ici, qui est le verre que j'appelle musicien, dans le fond, pour les passionnés de musique ou les musiciens. Il y a plein d'instruments dessus, il est vraiment mignon. Sinon, vous avez le deuxième, là, si vous aimez prendre votre café glacé ou autre boisson là, dans un verre qui vous motive. Il y a plein de petites quotes, il est marqué « Inspire-toi dessus »,« Sois ta priorité » et tout ça. Fait que c'est vraiment mignon et inspirant. Puis le dernier verre, c'est un verre qui vous invite à créer des souvenirs. C'est un petit Polaroid là, avec une photo qui sort, puis c'est marqué « C'est le temps de créer des souvenirs ». Donc, si vous avez envie là, de vous procurer un des items de la collection, il va être disponible sur le site de La Clos Loco. Je vais mettre le lien dans la description. Puis au courant de la saison, là, il y a d'autres items qui vont être ajoutés que je vais vous présenter plus tard. Donc, merci Chloé de La Clos Loco pour son travail. Elle a travaillé vraiment fort, puis pour la belle collaboration. Chaque saison, j'essaie d'apporter des améliorations au podcast. La saison dernière, c'est les visuels d'Inspire-toi qui ont été changés. Puis cette saison-ci, je lance enfin le Patreon d'Inspire-toi. Je voulais attendre d'avoir le bon moment pour le lancer, mais aussi qui fit avec l'image d'Inspire-toi. Puis c'est le moment avec les nouveaux visuels et tout ça. Donc, si vous voulez voir des épisodes en avance, puis avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez vous rendre sur Patreon. Vous allez retrouver 3 différents niveaux. Le premier, supporteur inspiré. Ambassadeur d'inspiration pour le deuxième et visionnaire inspiré pour le troisième. Donc, si vous voulez connaître là, les détails de chaque niveau, vous pouvez vous rendre sur Instagram dans le highlight Patreon ou vous rendre directement là, sur le lien qui est dans la description. Donc, on se retrouve sur Patreon! Pour un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Et aujourd'hui, je suis encore avec Marianne.
Allô!
Allô! Puis, on est à notre 2e épisode des discussions et d'échanges. Mm-hmm. Donc, je vous en avais parlé là, dans le premier, comme quoi c'est pas en mode entrevue, mais plutôt en mode discussion. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler de persévérance. Mm-hmm. Puis, j'ai envie qu'on commence avec un film que j'ai écouté et que je t'ai conseillé d'écouter, OK? Parce que pour moi, ce film-là représente... C'est comme si on avait à mettre un film sur le mot, genre, persévérance, là, dans le dictionnaire, c'est carrément ce film-là que je mettrais parce que je trouve que c'est incroyable la persévérance qu'il y a dans ce film-là. C'est le film Naiad, je pense que ça se dit.
C'est sur Diana Naiad.
Oui, c'est ça, qui est sur Netflix. On n'est pas sponsorisé par Netflix, là, mais...
Juste aller sur Netflix.
Oui, c'est ça. Si vous avez envie de l'écouter. Fait que moi, je l'avais écouté l'an dernier parce que ça a été nominé aux Oscars.
Ah ouais, OK.
Oui, ça a été nominé aux Oscars pour Best Actress, si je ne me trompe pas. Puis, j'écoute toujours, fun fact, là, j'écoute toujours les films qui sont nominés aux Oscars. Donc, c'est ça, je l'avais écouté pour ça. Puis, j'ai vraiment, ça a été un de mes coups de cœur de l'année. Ouais. Puis là, ben, vu qu'on faisait cet épisode-là ensemble, je me suis dit que... Fallait que tu l'écoutes.
Ouais.
C'était pas un devoir, mais...
C'est super bon, oui. C'est un fun devoir.
Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'on parle premièrement de l'histoire derrière ça, mais aussi que tu me dises, toi, ce que t'en as pensé.
Oui, bien, en fait, en gros, c'est l'histoire d'une nageuse qui s'est donné un objectif quand elle a 60 ans qu'elle n'avait pas réussi à faire à 28 ans, qui était la traversée Floride à Cuba.
Oui.
Ou Cuba à Floride.
Cuba à Floride,
Cuba à Floride. À la nage, ce qui correspondait genre 60 heures sans arrêt.
Ouais.
C'est sûr que, tu sais, là, c'est un exemple physique, là. Donc, de dépassement physique, mais, tu sais, elle avait pas réussi à le faire à 28 ans. Puis là, finalement, tu sais, on comprend que dans le début de la soixantaine, elle se demande un peu comme, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi mes objectifs? Puis elle se dit, ben, tu sais quoi, je l'avais pas réussi à 28, puis maintenant je vais réussir. Puis tout le monde se disait, ben là, t'as 60 ans. Tu peux, tu sais, c'est un peu ça la question. C'est comme, ben là, tu peux pas réussir à 60 ans quelque chose que t'as pas réussi à 28 ans.
Mm-hmm.
Surtout que là, bon, c'est sûr que c'est différent parce que c'est pas comme un objectif. Oui, c'est aussi intellectuel le sport, mais c'est aussi que là, les gens se doutaient que physiquement, tu peux le faire à 60 ans.
Mm-hmm. Puis là, écoutez, si vous n'avez pas vu le film puis que ça vous intéresse de l'écouter, soit vous faites pause à l'épisode puis vous allez l'écouter, ou soit vous skippez un petit peu. Pis...
Mais de toute façon, c'est un fait vécu. Fait que c'est pas comme on va vous spoiler. Là.
Ah, ben ouais, OK. J'étais pour dire, je veux pas vous spoiler, mais
non,
c'est parce
un fait vécu.
C'est ça. J'ai envie qu'on. Ouais, j'ai envie qu'on parle un petit peu plus comme de. Du fait, justement, qu'elle s'est lancé cet objectif-là, rendu dans la soixantaine.
Ouais.
Elle n'a pas réussi à 28 ans. Et c'est, d'ailleurs, il faut dire que cette traversée-là, là, c'est pas juste... déjà, on s'entend juste le nager, c'est déjà très intense.
Ouais, ouais.
Mais c'est que non seulement ça, mais il y a un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de méduses.
Et même des requins.
Et des requins aussi assez intenses. Ouais. Fait que c'est comme beaucoup, beaucoup d'obstacles pour arriver à ça. Puis elle, justement... Dans la soixantaine, elle décide qu'elle veut le faire. Elle fait une première tentative. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je connaissais pas du tout l'histoire. Là. Fait que ouais, quand je l'ai écoutée, j'étais comme... Bon, c'est sûr qu'elle va réussir dès le premier coup.
Ouais, ouais.
Mais non.
Mais non.
Et c'est ça que je trouvais beau.
Ouais.
Parce que elle réussit pas.
Ouais.
Elle décide de retourner.
Ouais. Oui, puis elle se trouve d'autres stratégies pour réaliser qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi la première fois. Et ça s'échelonne sur plusieurs années, là. C'est pas un objectif qu'elle s'est donné, puis là, comme elle a eu deux, trois tentatives, tu sais, c'est comme pour te remettre en forme, pour le recommencer du début et tout. Fait, ça s'échelonne sur plusieurs années, puis bon, effectivement, elle réussit parce que...
Ben, elle finit par réussir, mais c'est toujours bien quelqu'un qui l'a fait pour vrai, là. C'est pas une histoire, genre, de persévérance inventée, là.
Non, c'est fou. Ouais.
Fait, moi, c'est tellement venu me chercher, ce film-là, puis je me rappelle que le moment où est-ce qu'elle le réussit, j'étais émotive. J'étais comme, oh my God, tu sais. Puis, on s'entend que c'est totalement loin de ma réalité, cet objectif de vie-là. tu sais, moi, ça serait pas dans mes objectifs, mais c'est de voir quelqu'un qui réussit quelque chose, qui a travaillé si fort pour ça.
Ouais.
Moi, pour moi, c'est ça vient me chercher. Je trouve que c'est...
Parce que je pense que les défis qui sont plus physiques, là, j'en ai vu un aussi, un film, un documentaire, c'était sur des gens qui font de l'escalade. Puis... Je pense que parce que c'est physique, ça a l'air d'être dangereux. Fait qu'on se dit facilement, pour vrai, pourquoi? Tu sais, pourquoi? Parce qu'elle-même aussi, ben là, les gars d'escalade, c'est complètement fou parce que tu peux décéder.
Oui.
Mais elle aussi, de nager sans arrêt et tout, tu peux tomber en hypothermie. Tu sais, il y a plein de choses qui sont dangereuses là-dedans. Mais on a tendance à dire, mais pourquoi? Mais c'est juste parce que pour eux, la discipline qui a été la plus importante dans leur vie, dans laquelle ils se sont le plus épanouis et investis, c'est un défi qui est physique. Qui vient aussi avec des défis qui sont intellectuels, mais je pense que c'est facile de l'extérieur, quand on n'est pas dans cette discipline-là, de juste trouver que ça manque de jugement parce que c'est te mettre en danger. Mais on peut transposer cet exemple de persévérance-là à tellement d'autres disciplines qui ne sont pas nécessairement physiques et qu'on va continuer, même si on fait face à des refus, des échecs.
Bien, on peut prendre, par exemple, toi, ton art. Le fait de publier des romans, je veux dire, c'est pas tout le monde qui se fait publier dès le premier coup, déjà là, en partant. Toi, là, on en a parlé, il me semble, dans la saison 1. Fait que là, c'est un peu loin, mais je me souviens pas. T'as eu quelques refus avant d'être publié?
Non.
T'as pas eu de refus?
Non.
Ah, non. OK. Marianne, elle l'a eu tout d'un coup.
Non, mais je dirais par contre que là où la persévérance n'est pas... Je pense aussi qu'on donne aussi beaucoup l'exemple de l'auteur qui t'est fait refuser à maintes reprises, tu sais. On a tous entendu l'histoire de l'autrice d'Harry Potter qui a... Mm-hmm. Parce que ben, je pense que de voir des gens qui ont énormément de succès et de talent qui ont été refusés, ça aide aussi à remettre en perspective que des fois, si t'arrives pas à te faire publier ou à te faire connaître, c'est pas par manque de talent. Parce que, hey, au contraire, là, après ça, on voit des phénomènes mondiaux. Je donnais aussi dans l'autre épisode l'exemple de Leonard Cohen, que ça a été quand même long avant qu'il prenne sa place, alors que maintenant, mon Dieu, qui ne connaît pas Leonard Cohen. Fait que je pense qu'on aime, c'est inspirant, les histoires où on voit que les gens sont passés quand même par des refus, que ça a été difficile qu'ils trouvent leur place et leur public avant d'être là. Moi, de mon côté, où ça a plus été... T'sais, mon rapport à la persévérance a plus été que j'ai toujours su, dès que j'ai su écrire, puis même avant ça, je pense que j'avais tout de suite le cerveau propice à créer des histoires. Je me couchais le soir, là, j'avais 6 ans, là, puis j'imaginais des histoires, puis je l'écrivais des petits bouts sur des petits papiers parce que ça prenait trop de place dans ma tête, puis j'avais vraiment le goût de l'écrire. Après ça, quand j'étais au primaire, c'est ça que je disais toujours que je voulais faire. J'ai dit, tard, j'ai écrit des livres. Je pense que j'ai mis ce projet-là sur pause quand j'ai vieilli parce que j'ai eu l'exemple d'avoir des parents, une mère qui avait un emploi très traditionnel et un père qui était plus le côté artiste, plus bohème, qui essaye différentes choses. Puis on dirait que je voyais que si ma famille se tenait, ça a beaucoup été à cause de ma mère. Mm. Puis c'est comme si moi, quand même jeune... J'avais pas le guts de faire « Hey, je mets mon énergie dans un projet artistique, dans une carrière qui va être artistique, puis qui vient justement avec cette ambiguïté-là de potentiellement prendre du temps avant d'avoir une job, avant de prendre ma place. » Est-ce que, tu sais, c'est tellement des fois un coup de dé, est-ce que tu vas être publié ou pas. Fait que j'ai vraiment mis de côté ça en me disant « Ben, il faut que je sois réaliste, puis c'est pas réaliste d'aspirer à une carrière d'écrivaine.
Mm. »
Et ça m'a rattrapée, là, forcément.
J'ai envie de te demander, penses-tu que des fois, on va s'entêter sur certains objectifs qu'on avait quand on était jeune, puis que, tu sais, parce qu'on se dit, ben quand j'étais jeune, je voulais faire ça, fait que je dois absolument réaliser ça, puis qu'on va essayer, tu sais, on s'entête à essayer de réaliser ça, puis on essaye de se faire croire qu'on persévère.
Ben des fois aussi, il faut juste se demander, est-ce que ça se peut là, que c'était un rêve que j'avais quand j'étais enfant, mais est-ce que vraiment encore maintenant, parce que, tu sais, après ça, en grandissant, on fait face à comme plus d'options, là, puis ça se peut que... Tu sais, même moi, pendant un bout, je me disais pas, c'est un deuil de ma carrière d'autrice. T'sais, vraiment pas, là. J'avais la motivation et l'énergie de trouver une carrière qui allait rejoindre un peu d'autres de mes forces et tout ça, là, ça a quand même été long pour moi. Mais tu sais, quand même, je me disais pas que je faisais le deuil de ça. Je me disais juste que j'avais appris d'autres choses, j'avais vu d'autres choses quand j'étais à l'école, puis j'avais décidé de me diriger au début vers la psychologie, ça m'intéressait. T'sais, c'était pas en me disant, ben c'est le plan B.
Mm-hmm.
Pas vraiment. C'est juste que, c'est ça, je pense que si j'avais un conseil à te donner, là, c'est que de juste se dire qu'on fait certains choix pour être plus réaliste par rapport à d'autres, ça va vous rattraper. Vous allez, à un moment donné, cette aptitude-là que vous avez toujours sentie, que vous aviez, ben, elle va être encore là. T'sais. Puis c'est un peu dommage de l'enterrer quand on sent qu'on a quelque chose dans quoi on a du talent.
Mm-hmm. Puis je pense que des fois, il y a des gens qui vont avoir du talent en quelque chose, puis que, mettons, ils veulent l'utiliser, on va dire.
Mm-hmm.
Puis ils veulent persévérer, mais c'est qu'à un moment donné, c'est comme si dans la sphère de la vie, à un moment donné, ils se tannent et ils décident juste d'abandonner.
Ouais. Ouais.
Mais je pense que cet abandon-là aussi, il y a comme un... Je suis un peu partagée sur la question d'abandonner, mettons, un objectif qui te tient à cœur. Là. Je parle pas justement d'un rêve d'enfant que finalement, c'est plus ton objectif, ou d'un rêve, peu importe ton âge, puis qu'à un moment donné, tu fais comme OK, ça a été mon but à un moment donné, mais là, ça l'est plus.
C'est autre chose. Ouais.
Mais si tu as le même but, puis qu'à un moment donné, tu décides de l'abandonner, je suis vraiment comme... On dirait que je suis inconfortable avec cette idée-là.
Ouais.
Parce que je trouve que... c'est triste, puis j'ai l'impression que les gens vont le regretter.
Mm-hmm.
Je trouve que, tu sais, tu vas te dire, OK, moi, j'ai toujours voulu faire ça.
Ouais.
Finalement, je suis fatiguée ou tannée de persévérer dans cette voie-là. Fait que je décide de prendre le choix d'arrêter.
Ouais.
Mais moi, je suis convaincue que quand tu as un objectif comme ça, puis que c'est fort comme ça, puis que tu décides d'arrêter, ça va toujours être en arrière de ta tête, tu sais.
Oui, sauf que ça se peut que tu te rendes compte que la place que la poursuite de ce projet-là prend dans ta vie ne te rend plus heureux.
Mm-hmm.
Tu sais, si ça devient quelque chose qui fait plus t'apporter du négatif parce que tu deviens amer, tu sais, que ça commence à te changer, que tu réalises que tu vis plus dans la jalousie, dans l'amertume, dans le fait de pas mettre de l'énergie dans d'autres choses qui, elles, pourraient être plus positives, je pense que ça peut être correct de... ou que, tu sais, ou que cet objectif-là prenne juste une place différente.
Mm-hmm. Oui, je comprends. Mais penses-tu que... C'est parce que moi, si la personne se rend compte que ça la change, puis que justement, elle est inconfortable, puis que ça nuit carrément à sa vie, je pense que l'acceptation de laisser aller cette chose-là va être plus simple que si c'est pas le cas.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que, tu sais, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Il faut être confortable avec le fait de voir plus qu'un futur. »
Ah! Oh.
Puis c'est quand même vrai.
Hey, moi, si tu viens de me faire peur, je suis comme non!
Non!
Il y a seulement un futur de possible!
Ben, tu sais, je trouve que quand on se met beaucoup de pression avec certaines choses, de se dire comme hey, il faut absolument tendre vers ça, que c'est le seul futur que j'entrevois, moi, en tout cas, cette personne-là, si t'écoutes le podcast, merci. Ça m'a vraiment aidée, cette phrase-là, de dire « c'est pas le seul futur que je peux imaginer ». Puis par rapport à certains objectifs qu'on s'entête quand même à vouloir, ben de me dire « OK, mais si c'est pas ça, ça va être autre chose ». C'est pas que c'est échec ou réussite, c'est que c'est une voie ou une autre.
Je comprends, mais c'est que je pense que quand on a certains objectifs précis, mettons... Puis tu veux tellement ça, là. Puis là, je parle d'un objectif que tu veux à tout prix... Puis que finalement, tu sais, t'as un autre futur.
Mm-hmm.
Je comprends pas comment tu peux réussir à être heureux, sans ton objectif qui t'a tellement pris de ton temps. Puis tout ça. Puis en même temps, je trouve ça triste parce que je me dis, crime, si, mettons, ton objectif arrive jamais. On dirait que je comprends pas comment on peut vivre avec quelque chose que tu veux absolument atteindre puis que tu réussis pas à l'atteindre.
Mais donc, ça prend une persévérance saine.
OK.
Parce que je pense qu'il y a aussi de juste arrêter de persévérer. Ben, c'est vrai, c'est triste, là. S'il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur, tu sais. Là, tu sais, moi, j'ai dit, moi, j'ai pas vécu de refus, là, mais tu sais.
T'as eu d'autres persévérances quand même, là.
Non, mais dans le sens où j'avais quand même envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, puis j'ai eu un oui. Tu sais, moi, je considère que c'est réussi parce que j'ai quand même eu un oui la première fois que j'ai envoyé un manuscrit. Mais mettons que. C'était les autres maisons d'édition qui étaient un peu mon rêve, puis que celle qui m'a dit oui, je ne leur avais pas envoyé. Ben, je suis quand même une autrice maintenant publiée à qui on a dit non ailleurs, là, quand même.
C'est ça.
Puis, il y a aussi à un moment donné, j'avais eu l'objectif de me faire publier par un autre éditeur. Pas de changer, là, j'adore ma maison d'édition, mais de voir un peu c'était quoi d'être publié par une autre maison d'édition qui rejoint un autre public, qui a un branding différent et tout ça. Puis même si j'avais déjà publié et tout ça, ben ils m'ont refusé. C'était un objectif qui n'a pas fonctionné.
Puis comment t'as vécu ça?
Je pense qu'au début, là, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais très rapidement. Ça prenait beaucoup de place dans ma tête. Puis j'arrivais pas à me dire que j'allais pouvoir me contenter de juste avoir un roman par année. On dirait que je voulais tout faire en même temps. Je voulais rejoindre un public qui était différent. Je voulais que, tu sais, j'étais tellement comme en ébullition là-dedans que oui, c'était un grand rêve réalisé, mais je voulais plus que ça.
Mm-hmm.
Pas dans le sens genre, c'est pas assez pour moi, nanana, mais c'est que je sentais que j'avais tellement l'énergie, l'inspiration que je me sentais limitée avec un seul projet. Fait que je m'étais dit, je veux être publiée ailleurs. Finalement, je l'ai accueilli en étant un peu plus posée, je pense. Tu sais, par rapport à la réalité, par rapport à ce que cette maison d'édition-là m'a dit, comme quoi il avait aimé mon manuscrit, mais il trouvait qu'il rejoignait pas leur public cible. Puis on dirait que ça m'a remis en perspective que c'est vrai que ce que j'écrivais, je l'avais trouvé l'éditeur qui publie exactement ce que j'écris, tu sais. Puis ça m'a fait un peu me calmer là, par rapport à comme vouloir être partout en même temps, puis à me comparer à des auteurs qui en publiaient 4 par année. Puis, puis c'était pas parce que j'avais en tête une checklist, là, genre il faut que je sois celle. Tu sais, c'est vraiment parce que je voulais des objectifs qui correspondaient à l'énergie que j'avais à mettre là-dedans.
Mm-hmm. Je comprends. Mais aussi, la différence, c'est que si, par exemple, tu avais contacté cette maison d'édition-là en premier, puis pas celle que tu es actuellement, là, je pense que tu l'aurais plus vécu comme un échec que la différence que tu as déjà des livres de publier. Fait que c'est comme un peu un objectif réussi que tu aurais voulu amener à un autre niveau, mais que finalement, tu t'es rendu compte que ça convenait pas.
Comme on demande aussi beaucoup aux gens qui sont dans le milieu artistique, c'est là, par exemple, là, j'écris des romans, puis le monde dit beaucoup, c'est quand que ça va être traduit, c'est quand que ça va devenir un film. Tu sais, c'est comme on a beaucoup le réflexe de se dire « Ouais, mais tu veux clairement plus que ça. » Tu sais. Puis je pense que maintenant que je me suis comme plus calmée, ça me gosse un peu, ce réflexe-là, de tout le temps faire comme si ça devrait pas me satisfaire où est-ce que je suis maintenant, puis que je devrais tout le temps comme vouloir plus, 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 mais je suis comme, hey, je suis bien, là. Ouais. J'ai le lectorat que j'ai la place que j'ai c'est qui me satisfait vraiment. Et, évidemment, si d'autres projets vont éclore, je serais très contente, puis j'aimerais ça avoir ces opportunités-là, mais je sens pas non plus que j'en fais quelque chose de, mon Dieu, go, 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 là, il faut en arriver là.
Ça rejoint l'épisode de la notion du succès que j'ai faite, qui est déjà sorti d'ailleurs. Je trouve que c'est ça. C'est d'être. Ce que je parlais dans cet épisode-là, c'est que je disais que c'est important de réussir à garder ton ambition parce que je trouve ça important d'avoir de l'ambition. Mais faire la balance, tu sais, de oui, être ambitieux, mais sans toujours être dans l'insatisfaction.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose, des fois, que je déplore un peu, tu sais, de voir des gens qui ont cette tendance-là à ne jamais trouver que c'est suffisant. Pas de, tu sais, juste t'asseoir sur tes lauriers, là, parce que c'est ça aussi, d'être créatif, je pense, là, c'est d'avoir comme envie de d'autres choses, puis de te réinventer, puis de tendre vers d'autres choses, mais à un moment donné, c'est que ça va devenir... que le succès sera jamais satisfaisant.
C'est vrai. Puis, tu sais, je trouve que des fois, la persévérance, ça peut être difficile parce que persévérer, mettons, pendant, je sais pas moi, t'as un objectif X qui est, je sais pas moi, mettons, tu veux rénover ta chambre, là, tu veux comme refaire la déco. Bon, là, tu commences, puis ça va pas comme tu veux, puis tu persévères. C'est un objectif, on s'entend, à très court terme. Tu sais, je veux dire, tu vas le faire, tu vas être tanné à un moment donné, mais tu vas finir par accomplir ta tâche parce que c'est quelque chose de, un, réalisable par presque n'importe qui, puis deux, qui est vraiment accessible et en autant que tu finis par le finir, tu vas le faire.
Il y a un début puis une fin, là.
C'est ça. Mais je pense que la persévérance devient ultra difficile quand on dépasse un certain seuil de temps. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est que c'est facile d'être dans la persévérance comme dans la positivité, par exemple, dans les débuts. C'est tout le temps facile parce que t'es comme, oui, oui, ça va marcher, j'y vais, wouhou. Mais comme, on s'entend que quand ça fait, mettons, 5 ans, 10 ans que t'es dans le même truc, il y a aussi des gens qui vont venir comme alterquer ta persévérance en disant, ben voyons, là.
Mais ça, c'est tout le temps, là, n'importe quoi. Là.
C'est n'importe quoi, mais c'est que même si c'est dans n'importe quoi, ça reste que la personne qui va te dire ben, tu penses pas qu'il serait temps que tu laisses tomber ça.
Change d'idée, là. C'est ça. Décroche.
Trouve-toi un autre projet où c'est peut-être pas fait pour toi, finalement. Ces gens-là, ils vont te dire ça, puis ça peut venir faire en sorte que. Ta force envers la persévérance, tu sais, mettons, l'énergie que tu es capable de mettre diminue, tu sais.
Mais moi, je suis comme toi, là, quand je commence un projet, j'en parle pas vraiment. J'en parle quand il est fini ou quand il est bien, bien entamé, puis je sais qu'il va avoir une fin, parce que j'aime pas m'en faire parler pendant que ça se passe. Parce que justement, il y a aussi tous ces échos-là autour. Ouais, mais là, ça va te prendre combien de temps? Puis là, ça, non? Puis j'aime pas ça. Je trouve que ça m'appartient tant que c'est pas final.
Ça rajoute une pression, je pense. Puis moi, je suis comme ça depuis peu, là. Tu sais, tu sais, peu, je parle de, mettons, 1 ou 2 ans. Là.
OK.
Tu sais, avant, je parlais beaucoup de mes choses parce que j'avais une certaine fierté, je pense, mais il y avait aussi... On dirait que je me disais, ben, peut-être que si j'en parle, quelqu'un va connaître quelqu'un qui pourrait m'aider à atteindre tel objectif, tel objectif. Ou peut-être que si, peut-être que ça. Puis on dirait que je me suis rendu compte que si quelqu'un a à m'aider avec un objectif précis que j'ai pas besoin de lui parler de mon projet pour que cette personne-là m'aide. Dans le sens que la discussion va mener à ce que je comprenne que cette personne-là pourrait m'aider. Je vais choisir si cette personne-là est une personne de confiance pour lui partager mon projet, puis voir si je peux lui demander de l'aide. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que la persévérance, la notion du succès, puis les objectifs et les rêves en général, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit prendre comme si c'était un œuf, genre. Si ton œuf, tu le lances à terre, c'est sûr qu'il va, il va casser. Là, fait que c'est comme de quoi qu'il faut prendre vraiment doucement avec soi-même. Puis qu'après ça, justement, quand c'est prêt, on y va, là. Tu sais?
Moi, tu sais, c'est quelque chose... Quand je me suis lancée dans l'écriture de mon premier roman, au début, là, je me disais... OK, déjà, je veux pas en parler. Mais aussi... Je veux pas tout de suite être en train de me visualiser, l'envoyer à un éditeur, être qui soit comme dans la machine. Là, j'étais en mode, OK, là, c'est moi qui a vraiment besoin et envie d'écrire cette histoire-là. Je vais le faire, puis je vais me dire que je l'écris pour que ma sœur le lise. C'était la seule affaire que j'avais en tête, puis pour vrai, là. Je dis pas ça, là, pour que ça sonne bien, là. Genre, quand vous avez un projet, imaginez-vous pas. Si ça t'aide, là, de t'imaginer qu'il sera un éditeur, fine. Mais moi, ça m'aidait pas. Puis même encore maintenant que je suis passée par beaucoup de manuscrits, je suis encore en mode... Je veux l'écrire d'abord pour mon propre objectif à moi. Puis ça m'aidait vraiment à pas me mettre de barrière ou à pas penser trop loin, d'y aller par cette première étape-là qui était juste comme, il m'appartient, il est à moi, puis après ça, il y a ma soeur qui va lire. Ça va être ça. Puis après ça, là, j'ai laissé le projet exister différemment, mais ça m'aide à ne pas, à pas sentir trop de pression.
Ouais, mais je suis d'accord, puis je trouve que c'est une belle façon de faire parce que t'as besoin de mettre ça sur papier de toute façon.
Tant mieux
si c'est publié. Puis sinon, tu auras extériorisé ce que tu avais à extérioriser à ce moment-là. Mais c'est sûr que, je veux dire, oui, toi, tu es publié, tu as un certain revenu grâce à l'écriture, mais on s'entend que justement, tu as un autre job.
Oui, je ne vis pas de l'écriture.
Donc, on s'entend que si quelqu'un vit de l'écriture, je pense que c'est différent aussi.
Oui, certainement.
Il doit avoir des comptes rendus, il doit avoir ci, il doit avoir ça. Puis. Je pense que justement, cette persévérance-là doit devenir un petit peu, des fois, difficile. Parce que quand tu as le choix d'écrire et tu as le temps et comme tu écris quand ça te tente, là, on parle d'écriture, mais ça peut être tout autre projet, versus quand tu dois le faire, je pense que c'est différent. Parce que la personne, des fois, tu sais, comme toi, tu persévères parce que c'est quelque chose qui t'apporte un bien-être, mais la personne qui va. Elle persévérer parce que c'est, mettons, juste ça, son emploi, c'est parce qu'il faut qu'elle mange, tu sais.
Oui, c'est sûr,
Puis à un moment donné, je pense que des fois, ça devient comme un peu un couteau à double tranchant, là.
Oui, c'est sûr, mais tu sais, moi, c'est aussi important pour moi que ça devienne pas ça. En même temps, c'est sûr que si je pouvais en vivre. En même temps, je dis ça des fois, mais je sais, j'aime mes autres sources de revenus. mais... J'ai pas envie de voir quelque chose qui m'a tellement passionnée se transformer en quelque chose qui est un peu comme un contrat avec un deadline. J'ai pas envie que ça se transforme en ouvrir mon ordi et être comme ça me tente pas. Parce que, tu sais, j'écris quand même avec obligation quand je suis dans le travail éditorial avec l'éditeur. Là, j'ai des deadlines, là, j'ai des choses à faire et tout ça. Puis je trouve quand même que toute ma passion est là, puis mon envie de m'y plonger est là. Puis ça, c'est quelque chose que je veux pas que ça se transforme en une tâche.
Je comprends. Puis. Penses-tu que la persévérance, c'est comme pas nécessairement définie de la même façon d'une personne à l'autre?
Ouais, vraiment, parce que juste notre rapport à comment on s'investit dans un projet est tellement différent d'une personne à l'autre. Puis c'est quoi notre notion aussi d'avoir rempli un objectif, d'avoir persévéré jusqu'au bout? Tu sais, toi, est-ce que tu sens que ce vers quoi tu persévères, à un moment donné, tu vas te dire « OK, j'y suis » ou ça va être en continuel?
C'est drôle que tu demandes ça. J'en ai parlé un petit peu dans le succès, mais moi, je suis une personne... Je suis très consciente de ça, là. Disons-le, là, je veux dire, on va pas dire n'importe quoi, là. Je suis très, très consciente que mes objectifs sont immenses.
OK.
Tu sais, je sais que j'ai des gros objectifs.
C'est les Oscars.
Oui, pour vrai, oui.
OK, OK, OK.
Genre,
bon, bon.
Je sais que okay. Les gens rient de okay, ça, okay. Mais comme, oui. Okay. Tu sais, je veux dire, je serais très satisfaite à juste faire des films, là, mm-hmm. ou des séries, ouais. ou, mon Dieu, j'accroche le micro.
Ça, vivre de l'acting.
De mon art, ouais. là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que les buts ultimes seraient ça. Mais
ouais.
Tu vois, par contre, à ce niveau-là, je suis pas à me dire que ça me prend ça à tout prix.
Okay.
Par contre, ça reste un but quand même. Mais tu sais, ouais. mes buts en général, tu sais, la majorité des gens vont avoir un petit objectif, moyen, mm-hmm. gros objectif.
Ouais, ouais, ouais.
Mais moi, j'ai tout ça plus des objectifs qui sont genre gigantesques
ouais.
aussi.
Okay.
Puis ouais. je suis consciente, mais moi, okay. mes objectifs gigantesques prennent beaucoup plus de place que mes objectifs
okay. modérés.
Modérés.
Fait que toi, t'as deux futurs, en fait. Celui des objectifs gigantesques
non,
et celui...
Non, j'ai qu'un seul
okay,
futur.
OK, c'est juste les objectifs gigantesques.
Oui.
OK, OK. okay.
Puis c'est juste les objectifs okay. gigantesques parce que les petits objectifs se joignent à mes okay. objectifs gigantesques.
OK. okay?
Puis je suis consciente de ça. Puis des fois, justement, en étant une personne très ambitieuse, qui a beaucoup, beaucoup de projets,
mm-hmm.
dès que je termine un projet, j'ai envie d'en commencer
ouais,
un autre.
Ça, je comprends. Ouais.
J'ai aussi de la difficulté à terminer un projet. Puis là, je parle pas de rendre le projet à terme. Mm-hmm. Je parle de... bon, là, on finit pas le podcast, mais par exemple, mettons mm-hmm. que je dirais, OK, j'ai épluché tout ce que j'avais à faire ouais. avec le podcast, c'est le moment de dire que c'est terminé pour moi. Moi, j'ai cette difficulté-là à faire comme, OK, c'est le moment de mettre un terme à ce projet
okay,
qui
ouais.
a été... qui a fait tout ce qu'il y avait à être fait, tu comprends?
Mm-hmm.
Fait que ouais. pour moi, c'est comme s'il faut que je le garde vivant.
Mm-hmm.
Mais là, c'est que ouais. dans ouais. la vraie vie, là, de garder tous ces projets-là vivants, mm-hmm. à un moment donné, ça devient prenant, là.
Oui, 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 c'est
ça. Ça devient
ouais.
difficile.
Oui.
Et moi, quand mm-hmm. je termine, exemple, un projet quelconque, on dirait que des fois, je vois un peu ça comme un échec. Pas dans tous les cas.
Parce que tu le termines?
Parce que je le termine okay. et que je me dis, ben peut-être qu'il aurait pu aller plus loin. Mm-hmm. Peut-être que si, peut-être ouais. que ça.
Ouais.
Ça dépend évidemment des projets. Tu sais, si c'est un projet, je sais pas moi, de... Mettons, m'acheter une voiture. Bon, mm-hmm. ben là, c'est pas pareil. Mais
ouais.
des projets qui s'échelonnent sur mm-hmm. du temps, comme là, je reprends le podcast en exemple. Si je terminais le podcast demain matin, j'aurais le sentiment que ben, peut-être que mon podcast aurait pu grossir, prendre mm-hmm. encore plus d'expansion.
Ouais, ouais.
Peut-être qu'à un moment donné, ça l'aurait découlé à d'autres opportunités ouais. et ainsi de suite. Puis je trouve que ça, c'est difficile des fois de faire la part des choses entre tout ça. Puis tout ça pour répondre à ta question que je pense que je dois apprendre à justement me satisfaire ouais. de certaines choses, mm-hmm. arrêter d'avoir peur de manquer des mm-hmm. choses, puis me dire que ça va finir par arriver même si c'est pas demain matin.
Ouais.
Puis tu sais, être capable de... Moi, je veux pas diminuer mes objectifs gigantesques.
Mm-hmm.
Je sais qu'il y a des gens qui diraient « Là, faudrait que tu diminues ça, ça a pas de bon sens. » Mais comme...
Mais non, c'est très bien de les garder, honnêtement.
Ouais. Mais moi, je suis pas pantoute dans le... Tu sais, je suis comme... Tu veux penser ça? Encore une fois, je fais un lien avec l'épisode sur la trentaine qu'on a fait. Les gens sont comme « T'es vieille un peu, faudrait que tu ouais. genre redescendes sur Terre. » Ben, tant mieux, redescendez-vous sur Terre.
Ouais,
moi, je vais
moi.
Rester dans mon nuage. Puis... Je trouve que c'est ça, c'est que des fois, j'ai comme de la misère à faire « OK, je veux d'être satisfaite. » Puis je posais la question par rapport à la notion de succès. J'ai posé la question sur Instagram, là, à savoir ouais. c'est quoi la notion de succès pour les gens et tout ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu penses que toi, t'as réussi? »
Ah ouais?
Quelqu'un m'a demandé ça.
OK, c'est challengeant.
Puis, c'est plate, là, mais j'ai répondu non.
Non.
Puis le pire, c'est que si je suis rationnelle, je suis capable de dire que j'ai persévéré pour énormément de choses et que j'ai réussi beaucoup de choses. Ouais. J'en ai échoué beaucoup aussi, mais il y a plein de choses que j'ai réussi. Mais c'est comme si, tu vois, je le vois pas comme du succès.
Oui, puis par rapport à n'importe quoi, tu sais, même là, comme je te disais, moi, je me considère très choyée. Mais en même temps, des fois, j'ai comme un rapport un peu... Je trouve qu'on s'attend tellement à ce que tout le monde exprime de la gratitude sans arrêt, mais la persévérance a servi.
Oui.
Fait que tu sais, c'est pas juste comme un cadeau du ciel.
Non, c'est comme, ça.
Bon, je suis là où je suis.
Parce que j'ai travaillé
j'ai
pour.
J'ai travaillé pour, puis bon, j'ai la place que j'ai. Est-ce que je suis satisfaite de ça? Oui, tellement. Mais est-ce que je me dis, ben il faut seulement que ce soit ça, il y a un check, maintenant je publie des livres? Mais c'est sûr que non. Tu sais, quand quelque chose te passionne, tu veux que ça te mène ailleurs et ailleurs et ailleurs. Puis pas juste parce que ça sonne bien, parce que c'est impressionnant, parce que c'est compétitif avec d'autres mondes, parce que c'est d'autres projets qui vont m'allumer, mettre de l'avant des forces, mettre de l'avant des choses que j'aime faire. Tu sais, juste quand j'écrivais mon livre dans mon lit, là, que je savais qu'il allait être ces tablettes, mais je savais pas trop. On était en COVID, puis il y avait les vidéos des tables rondes du Salon du Livre. Puis je me disais, j'aimerais tellement ça être invitée à une entrevue, puis peut-être ça va arriver un jour, puis tu sais, maintenant j'en fais souvent, puis je me dis, c'était pas juste écrire un livre, c'est aussi que ça l'ouvre la porte à des discussions, à des rencontres, à d'autres formes de transposer cet art-là différemment. C'est pas non plus d'avoir comme, d'être jamais satisfait, mais c'est de laisser un objectif rebondir à un autre.
Bien, c'est ça, puis je pense que ça rentre dans les ambitions, parce que tu sais, la différence, c'est ça. C'est que si tu as des ambitions, que tu persévères pour atteindre ces ambitions-là, que tu en atteins, une fois atteint, si tu reconnais que, parfait, j'ai réussi ça.
Ouais.
Il n'y a pas de problème d'avoir d'autres ambitions.
Mais non, c'est ça. Ça ne veut pas dire que là, je suis plus satisfaite de ce qui est réussi. Tellement pas. Mon Dieu, quand je vois mon premier roman, il y a plein de gens là, qui me disent « Ah, le premier, tu sais, ça doit être un peu bizarre parce que tu t'es tellement améliorée depuis. » Mais il n'y a rien qui va me rendre plus fière de moi, de toute ma vie, que mon premier roman.
Ben, c'est sûr.
C'est pas comme après celui-là, ben là, ça a comme perdu un peu de valeur parce qu'il y a eu d'autres choses qui m'ont amené ailleurs puis qui ont été encore mieux reçues par le public, la critique. Il n'y a rien qui va me rendre plus heureuse que la réalisation de mon premier objectif qui a été le tremplin à tout le reste.
Exact. Mais je pense que le problème, c'est dans un cas comme moi où est-ce que j'atteins des objectifs, mais parce que j'ai pas encore atteint mon objectif gigantesque.
Ouais, c'est ça.
Ça fait en sorte que je suis comme, moi, j'ai rien réussi dans la vie.
Mais le gigantesque a pas le choix d'être le ricochet de plein d'autres. D'être la suite de plein de ricochets.
Mais là, quand je vous dis, je vous parle de ça dans plein d'épisodes, que je travaille sur moi, ça fait partie des choses que je dois travailler.
Oui, oui.
C'est que je dois apprendre à comme être fière de moi. Parce que c'est ça, c'est que je suis toujours la personne, comme je te disais dans l'autre épisode, qui va se taper sur la tête. Qui va être comme, tu dois être...
Plus.
C'est pousse plus, donne plus. Tu sais, persévère, lâche pas. Comme, je trouve que des fois, je devrais apprendre à justement célébrer certaines petites victoires.
Mais oui.
Puis faire comme ça, je l'ai réussi. On l'a.
Ouais.
C'est un acquis. Ouais. On continue. Oui,
mais c'est vrai.
Mais je pense que c'est ça. Il n'y a rien de mal à persévérer vers un rêve qu'on a ou un objectif ou un but ou peu importe. Je pense que qu'est-ce qui est problématique, c'est ça. C'est que quand tu persévères pour les mauvaises raisons ou que justement, c'est jamais suffisant.
Oui.
Puis, tu sais, il y a une différence, c'est ça, entre pas suffisant et on a d'autres choses grâce à, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Ça, c'est vraiment... Mais tu vois,
il y a
moi,
aussi là-dedans la notion d'ego, je pense. Tu sais, j'ai un ami musicien qui me disait, quand t'es musicien, il faut quasiment que t'aies pas d'ego. Parce que tu te fais tellement refuser, critiquer, c'est dur de prendre ta place, c'est difficile de percer. Fait qu'il faut quasiment que tu mettes sur pause ton ego, tout ce qui peut en fait devenir que tu le prends personnel. Tout ce qui a un lien avec les refus puis les embûches. T'sais, c'est comme tout ce qui est les premières critiques, les premiers refus. On dirait que tu te sens démoli comme personne. Pas que c'est ton projet qui a peut-être pas rejoint la cible au bon moment, dans le bon timing, tu le sens vraiment comme si c'était toi qu'on te démolit. Puis je pense que ça aussi, ça peut nuire à la persévérance dans les premiers refus embûches, parce qu'au début, ça, c'est vrai qu'avant d'être vraiment habitué aux refus et aux critiques, tu le vois comme si quelqu'un t'avait comme brisé le cœur, là. Tu sais, comme toi, personnellement. Puis ça va souvent faire en sorte que tu ne veux pas revivre ça. Fait que le fait d'abandonner, et pas tellement parce que dans le fond, t'étais paresseux, que parce que tu te protèges de plus vivre ça.
Je comprends, puis je suis vraiment d'accord. Parce que il y a quand même... Tu sais, ça dépend c'est quoi tes objectifs, mais mettons, dans la sphère artistique, il y a beaucoup de refus.
Ouais,
peu importe
ouais,
que ce soit en écriture, en musique, en art, en acting, en danse, whatever. Fait que, veux pas, on est beaucoup confrontés au rejet.
Ouais, vraiment.
c'est plate, mais c'est ça. Puis même quand tu réussis, comme toi, par exemple, t'as publié des livres. Ça se peut qu'il y en ait qui n'aiment pas tes livres.
Ah ben oui, il y en aura toujours.
Puis ils vont dire, ça c'était vraiment mauvais, quelle histoire plate.
Puis qui vont accrocher sur des détails. C'est là, ça.
Ou genre, c'est vraiment pas réaliste ce livre-là. Ben ok, mais c'est un livre, c'est une histoire. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on va laisser les autres affecter la manière qu'on persévère dans nos trucs. Mais toi, si tu t'étais arrêté à la personne qui t'a dit que ton histoire était vraiment poche puis qu'elle l'a pas aimée... T'aurais arrêté de publier des livres. T'en aurais publié un, ça aurait été fini, t'aurais dit, moi, j'écris plus jamais. Puis c'est ça, c'est que... Je pense que souvent, dans la vie, pour plein de raisons et plein de sphères de notre vie, on accorde beaucoup trop d'importance à ce que les autres pensent.
Oui, vraiment, vraiment.
Énormément d'importance. Puis je dis ça et je suis la première à en accorder de l'importance, mais je trouve ça difficile d'arrêter d'accorder de l'importance parce que les gens se permettent de donner leur opinion alors que tu l'as pas tout le temps demandé.
Non, c'est sûr. Puis moi, ça a été aussi, tu sais, au début, là, quand mon premier livre est sorti, j'avais rencontré d'autres autrices de la même maison d'édition que moi, puis il y en a une qui m'avait dit « Allô à Sophie Lorrain ». Elle m'avait dit... pour vrai, va pas voir les commentaires sur Goodreads parce que c'est juste du négatif. Oui, il va y avoir du positif là-dedans, c'est sûr, là. Mais tu vas juste retenir sur 90 commentaires positifs, tu vas retenir le commentaire négatif. Puis c'est tellement vrai, là. Ça me, c'est fou parce que là, après ça, ça t'habite, puis ça t'affecte, puis faut pas. Puis moi-même, je le dis là, aux autres qui sont plus nouveaux, là, allez pas là-dessus. Mais au départ, c'est un réflexe parce que t'as l'impression que c'est la première fois que tu lances quelque chose dans l'univers, puis que ça existe à travers les yeux et la sensibilité d'autres personnes. T'as envie de voir c'est quoi ce résultat-là, de j'ai créé quelque chose, puis il va passer à travers la subjectivité de tellement de gens. Je veux savoir c'est quoi cet écho-là. Puis c'est dur de dire non, je veux pas le savoir, parce que, ben c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça finit par juste faire du mal. Puis mon processus un peu mental, c'était juste de me dire, hey, est-ce que moi... je changerais quoi que ce soit à ce que j'ai soumis comme projet? La réponse est non. Même si, ben c'est sûr, il y a des erreurs dans tout, il y a des choses qui s'améliorent d'un projet à l'autre, il y a des choses qui... Mais est-ce que je le changerais pour autant? Non. La réponse est vraiment non. Fait que même si ça me blessait de lire des choses qui étaient négatives, ben au final, ça fait pas plus que ça me fait grandir comme autrice. Non.
Ben c'est un peu la même chose avec le podcast, tu sais. On s'entend que chaque extrait que je poste, il va avoir des commentaires qui sont négatifs, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont adorer
l'épisode.
Mais
oui, c'est ça.
Puis c'est vrai qu'on retient les trucs qui sont négatifs parce que je vais me souvenir qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai aimé l'épisode et tout ça », mais je me rappelle pas exactement spécifiquement ce qu'ils m'ont dit versus la personne qui a dit toi t'es poche ou genre ok
mais t'sais. Oui tu sais hey, moi c'est fou des fois là dans mes messages perso là, sur Instagram il y a des gens là qui m'envoient là des longs messages pour me dire comment ça les a touchés puis à quel tu sais et ça me touche à chaque fois là tu sais faut pas que les gens ils hésitent à écrire aux auteurs ou à n'importe quel artiste qui les a rejoints parce que c'est tellement la meilleure paye là t'sais.
Mais ça fait du bien ça l'aide à continuer justement
puis les gens qui écrivent tu sais quelque chose de long comme ça là mon Dieu je l'accueille, je l'apprécie. Puis des fois, il peut y avoir juste une personne que j'ai vue passer, c'était mauvais, je l'ai abandonné. Puis ça me tue, alors que la personne a écrit 4 mots, là.
C'est
j'ai aucune idée pourquoi elle l'a abandonné, pourquoi elle a trouvé sa place, mais ça va me tuer, puis ça va comme Puis là, je me dis, hey, pourquoi je mets plus de j'accorde plus d'importance à ça qu'à la personne qui m'a tellement comme écrit de belles choses. Mais là, ça, c'est quelque chose que, oui, l'expérience m'a vraiment fait apprendre à justement le mettre de côté, le côté personnel, puis à voir que quand on critique mon livre, on ne critique pas moi.
Non, c'est ça. Puis ça, c'est pas évident, mais je pense que, tu sais, c'est ça. Il y a aussi la notion de... Tu sais, comme, justement, j'ai abandonné un livre dernièrement.
On fait tout, le mot aussi.
Mais moi, je faisais pas ça avant. On dirait que je l'ai commencé. Tout persévérait. Oui, c'est ça.
Moi, j'ai appris un peu à faire mal. Il y a tellement d'autres choses à lire.
Ben, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, il y a tellement de livres que je veux lire. Puis j'ai abandonné un livre. Puis justement, moi, j'ai marqué sur Goodreads que je l'avais abandonné, mais j'ai marqué que j'ai pas embarqué dans l'histoire. Mm-hmm. Puis que ça m'a pas rejoint.
Ouais.
Mais il y a une différence entre j'écris ça sur Goodreads juste pour que les gens qui, mettons, le lisent font comme « Ah, elle a pas embarqué pour telle raison, tu sais. » Puis encore là, je n'ai pas critiqué, j'ai pas dit « C'est mal écrit » ou « whatever », tu sais. Mais jamais de la vie que j'irais écrire à l'auteur pour lui dire « Ton livre, là, c'était pas vargeux, là. »
Mais tu sais, c'est là aussi où moi, mais là, c'est ça, c'était le début là, de mon premier livre, que ça m'affectait vraiment. Puis après ça, je me disais, hey, j'en lis plein des livres, là, que je le sais, là, que l'auteur a eu vraiment du succès, que c'est bien écrit, que cet auteur-là a vraiment sa place, mais moi, ça m'a pas rejoint. Moi, c'était pas la lecture que je cherchais à ce moment-là. Puis c'est bien correct, tu sais. Fait que je me tu sais, fallait comme que je me redise ça. T'sais, moi-même, là, ça m'arrive de trouver des choses qui me rejoignent pas.
C'est ça. Puis tu sais, ça l'aurait vraiment pu affecter ta persévérance, justement.
Ouais.
Mais il y a un travail qu'on doit faire sur soi-même, puis à un moment donné, se dire comme, garde, ça, là, ça m'appartient pas.
Mais aussi d'avoir un certain... d'accorder je dirais pas comme une valeur, mais c'est vraiment valable de ne pas faire l'unanimité pour n'importe quoi, parce que ça, c'est comme... presque impossible, je dirais impossible, de faire l'unanimité.
Ben, c'est impossible.
C'est impossible.
Je connais personne.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'unanime dans la vie? Mais je pense pas. Même dans les plaisirs les plus simples, il y en a qui aiment pas ça. Fait que c'est ça. Mais puis, est-ce que l'écriture, le processus ou n'importe quel projet était fait dans le but de faire l'unanimité? Ben non. Parce qu'on veut être dans les nuances, on veut rejoindre les gens dans des choses qui sont tellement plus intangibles que c'est impossible de faire l'unanimité, puis de quand même embrace le fait que, ben oui, il y aura des clivages à certains moments dans ce qu'on suggère.
Puis c'est parce que si tu veux faire l'unanimité, tu seras plus toi-même non plus.
Non, exactement. Moi, quand j'ai écrit mon premier roman, au début, là, il y avait beaucoup de... Peut-être que ça marchera pas parce qu'il était très gros. Puis dans la littérature contemporaine qui rejoignait plus le public cible, le style, mon style d'écriture, c'était beaucoup des beaucoup, beaucoup plus petits romans. Puis moi, je suggérais quelque chose de 3 fois plus gros. Puis dans les premières critiques, c'était beaucoup... C'était gros, c'était long. Puis... dans le fond, il fallait que je me dise, ben non, parce que moi, c'est ça que je suggérais. C'était ça que je voulais apporter exactement dans ce format-là. C'était ça ma touche à moi, ben, et d'autres choses, mais quelque chose que j'aurais pas voulu changer, c'était cette suggestion-là.
Ouais, mais c'est ça. Je pense que, comme tu dis, on peut pas faire l'unanimité pour tout le monde. Puis clairement, clairement, si on s'arrête à ce genre de choses-là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va lâcher notre poursuite d'un objectif, tu sais.
Ouais.
On va conclure l'épisode ici.
Déjà,
on va aller poursuivre sur Patreon. Okay. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Sinon, merci d'avoir été là. Et on se voit dans un prochain épisode.